J'aimerais commencer ce matin avec un constat. Un constat sur le monde évangélique en général et sur les chrétiens en particulier. Le constat que pour un nombre sans doute croissant de chrétiens, l'Église, la vie d'Église, est facultative, est une option facultative de la vie chrétienne. Bien évidemment, ce phénomène, cette tendance a toujours existé, mais il me semble qu'elle s'est amplifiée ces dernières décennies, et en particulier ces dernières années depuis la crise du Covid. En effet, les années Covid ont introduit dans la vie de nombreux chrétiens la pratique des cultes en ligne, des chaînes YouTube et autres podcasts, mettant à disposition des chrétiens qui le souhaitent un nombre quasi illimité de possibilités, trop souvent réduites au seul thème de prédilection de chacun. Si beaucoup de chrétiens ont repris le chemin de leur église à la fin des différents confinements, d'autres sont venus renforcer les rangs de toutes celles et ceux qui pensent pouvoir vivre leur vie de foi dans leur coin, en restant chez eux, qui pensent pouvoir se passer d'une vie d'église. Alors bien sûr, je suis conscient que pour un certain nombre de ces chrétiens, qui au mieux papillonnent irrégulièrement d'église en église, il y a des blessures relationnelles importantes qui sont souvent à la racine de leur mise en retrait. Ceci dit, ce constat que je formule m'attriste beaucoup, me désole profondément même. Pourquoi ? Parce que l'existence de l'Église, la vie d'Église, est la volonté du Seigneur pour ses enfants, pour ses disciples. Et se soustraire à la vie d'Église, avec ses joies et ses peines, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est finalement penser savoir mieux que Dieu, penser savoir mieux que Jésus ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour ma foi, ce qui est bon pour ma sanctification. Ce matin, donc, devant ce constat qui mériterait, j'en conviens facilement, d'être affiné, j'aimerais réfléchir avec vous à la raison d'être de l'Église. Finalement, est-ce que ce sont les papillonneurs d'Église qui ont raison, en s'épargnant tous les tracas possibles d'une vie d'Église ? Est-ce que ce sont eux qui sont dans le vrai ? Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu l'Église ? Fondamentalement, quels sont les rôles de l'Église en général et des églises locales en particulier qui font que l'Église, dans la pensée de Dieu, n'est pas une option facultative, n'est pas une option à la carte pour ses enfants. Et j'aimerais apporter ce matin quatre axes de réponse à ces questions que je résume par la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église ? Et nous répondons premièrement pour célébrer la gloire de Dieu. Dieu a créé l'Église pour que nous célébrions sa gloire. C'est la première réponse. Dans notre société occidentale, tournée tout entière vers la réalisation de soi, vers l'épanouissement personnel, il est très facile pour chacun de nous d'oublier qu'avant d'être pour nous, qu'avant d'être pour l'homme, l'Église est pour Dieu. Sa vocation première, et quelle vocation glorieuse, est de célébrer la gloire de Dieu. Il me semble que trop souvent, trop facilement, nous réduisons l'Église, la vie d'Église, à ce qu'elle peut nous apporter. Et c'est important, bien évidemment. Notre compréhension de l'Église tourne facilement autour de nos besoins, autour de nos envies, autour de notre satisfaction personnelle. Alors ne me comprenez pas mal, il y a de la place pour toutes ces choses dans la vie de l'Église. Si Dieu a voulu l'Église, nous allons l'aborder dans un instant, c'est aussi bien évidemment pour notre bien. Mais avant d'être pour notre bien, la vocation de l'Église est de célébrer la gloire de Dieu. Écoutons à ce sujet, ça fait peur hein, quand on voit comme ça le texte. On ne va pas s'attarder très longtemps. Et vous savez que ça, en grec, c'est une phrase. Bon, en français, heureusement, on en a fait un peu plus, mais voilà. L'apôtre Paul prit dans son élan, a voulu tout mettre dans une phrase. Mais voilà ce qu'il dit, et on va juste évoquer une ou deux petites choses rapidement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. C'est la traduction du Semeur. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ, vous qui avez cru, que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors que dit Paul ici? Il dit beaucoup trop de choses pour nous ce matin. Alors je reformule ma question, que dit Paul ici de la vocation des chrétiens? Que dit Paul ici de la vocation de l'Église? Il commence au verset 3 en affirmant que nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles par notre union à Jésus-Christ. Des bénédictions spirituelles qu'il va énumérer ensuite dans le texte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les questions d'élection, de prédestination, d'adoption, de rédemption, de pardon des péchés, etc., etc. Et tout cela dans quel but? Un but bien précis que l'apôtre Paul va souligner à trois reprises dans ce texte, dans cette même phrase donc, pour célébrer la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Pourquoi Dieu nous a-t-il connus d'avance, choisis, destinés d'avance, adoptés, délivrés, pardonnés? Pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? Pourquoi nous a-t-il fait connaître le secret de son plan? Pourquoi a-t-il fait de nous ses héritiers? Pourquoi Dieu nous a-t-il comblés de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ? Paul donne la réponse à trois reprises dans ce texte. « Afin que nous célébrions sa gloire. » Je fais un autre constat. On n'a sans doute jamais autant parlé de louange dans l'Église de Jésus-Christ que ces dernières décennies. Et pourtant, force est de constater que ce que l'on appelle parfois louange à Dieu est plus souvent centré sur l'homme que sur Dieu. Alors, je ne parle pas ici des chants de notre répertoire où on essaye d'être vigilant et de veiller au contenu des chants que nous chantons. Je parle ici de ce que l'on peut voir dans les recueils actuels de louanges. Alors, je ne vais pas trop dans la nuance là tout de suite, mais il y a des nuances à mettre aussi dans ce que je suis en train de dire. Mais dans ces recueils, souvent, très souvent, en tout cas à mon goût, c'est avant tout de notre bien-être, de nos sentiments, de nos émotions dont il est question. Alors là aussi, il ne faut pas comprendre de travers ce que je suis en train de dire. Ces choses ne sont pas mauvaises et elles ont leur place dans notre vie d'Église aussi, bien évidemment. Mais pas à la place de la louange qui revient à Dieu seul. Alors je vais forcer un peu le trait au risque de caricaturer les choses, puisque je me suis lancé, j'y vais. Et je suis conscient qu'il y a des nuances à mettre, je le redis. Mais imaginons que nous résumions notre louange, je dis bien que nous résumions notre louange à dire à Dieu que nous sommes bien dans ses bras d'amour. On le chante parfois. Si notre louange se résumait à ça, est-ce que ça serait véritablement de la louange ? Est-ce que nous aurions véritablement célébré la gloire de Dieu ? Alors oui, nous sommes des êtres faits d'émotions et de sentiments, et il est tout à fait normal que ces choses transparaissent dans notre piété, qu'elles transparaissent dans nos chants et dans notre louange à Dieu. La question, ce n'est pas oui ou non. La question, c'est à quel degré ? À quel degré ? Et ce que j'essaye de dire ici, peut-être maladroitement, c'est que dans notre louange à Dieu, dans notre louange à Dieu, la balance doit clairement pencher du côté de Dieu et non pas de notre côté. Et il y a quelque chose de fondamentalement paradoxal dans ce sujet très actuel de la louange. En effet, à l'époque où certainement le peuple de Dieu parle le plus de la louange, sans doute comme jamais auparavant dans l'histoire de l'Église, me semble-t-il, il faut, je crois, réapprendre, comprendre ce que veut dire célébrer la gloire de Dieu. Si notre salut est bien évidemment pour notre bien, nous devons nous souvenir que Dieu nous a premièrement sauvés pour lui. C'est pour lui que Dieu nous a sauvés, avant toute chose, pour que nous célébrions sa gloire, par nos chants, bien évidemment, mais surtout par notre vie tout entière. Écoutons ce que disent le prophète Ésaïe et l'apôtre Pierre dans ces deux versets, Ésaïe 43, 21 et 1 Pierre 2, 9. « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et puis dans la première épître de Pierre, « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous son peuple ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église afin que nous publions ses louanges, afin que nous célébrions bien haut ses œuvres merveilleuses, afin que nous célébrions sa gloire? C'est notre vocation dès ici-bas, et nous le faisons bien imparfaitement pour l'instant, mais c'est aussi notre vocation pour l'éternité, et c'est une vocation glorieuse. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église ? Nous répondons deuxièmement qu'il l'a créé pour l'épanouissement et le perfectionnement de ses enfants. Alors j'ai choisi de mettre ce point avant celui de l'évangélisation parce que pour bien remplir notre mission dans le monde, l'Église doit aussi et premièrement sans doute s'occuper des siens. Parce qu'avant de pouvoir donner, il faut avoir reçu. Parce que pour pouvoir bien donner, il faut être bien enraciné. Qu'ont fait les premiers chrétiens après la première Pentecôte ? Ils ont fait une campagne d'évangélisation ? Nous lisons qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Dieu a voulu l'Église pour notre bien. Et il aurait pu très bien décider que la vie chrétienne se vive chacun dans son coin. Ça aurait pu être sa volonté, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu pour nous. Dieu a pensé, il a voulu et il a créé l'Église pour que son peuple s'y fasse du bien. Alors oui, nous l'avons vu pour sa gloire, mais aussi et simplement pour nous, pour notre croissance spirituelle, pour notre affermissement, pour notre épanouissement, en d'autres mots, pour notre sanctification. Pour nous, Dieu a voulu l'Église comme un atelier d'apprentissage, comme un centre de formation. C'est ça l'Église pour nous. Alors mes amis, est-ce que Dieu s'est trompé en planifiant les choses ainsi ? Est-ce que nous pourrions parvenir au résultat que Dieu désire autrement que par ce que l'Église peut nous proposer ? Personnellement, je ne le crois pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit l'enseignement de la parole. Alors bien sûr, toutes les églises sont imparfaites, ça vous le savez. Si l'Esprit de Dieu est là, la chair n'est jamais bien loin. Et les vies d'église ne sont pas parfaites. Et les relations dans l'Église ne sont pas parfaites. C'est parfois difficile. Ça peut arriver, ça existe, c'est la vérité. Et beaucoup ont été échaudés et ont rejoint les rangs de tous ceux qui sont maintenant à distance. Mais c'est avec ces imperfections, que Dieu a voulu l'Église pour notre bien, pour nous instruire, pour nous former, pour nous sanctifier par sa parole et pour nous sanctifier aussi au travers des relations fraternelles. N'oublions jamais que le beau galet que l'on va ramasser au bord de la rivière, bien arrondi, bien lisse, sans aucune aspérité, c'est fait avec le frottement contre les autres pierres et les autres galets de la rivière. La pierre isolée là, que je déterre dans le jardin quand j'y travaille de temps en temps, elle a conservé toutes ses arêtes bien acérées, bien coupantes. En fait, nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. Et Dieu a donné l'Église pour cela. Apprendre à vivre ensemble avec son lot d'exigences est un des moyens voulus par Dieu pour notre sanctification. Et c'est une utopie dangereuse que de penser qu'une église en bonne santé, c'est une église qui serait dépourvue de frottements relationnels. Ils sont incontournables, ils sont parfois douloureux, mais ils sont nécessaires. Encore faut-il les vivre selon Dieu ? Encore faut-il les vivre selon la parole qui a beaucoup de choses à dire. Savez-vous combien il y a de commandements directs dans les épîtres qui appellent les chrétiens à évangéliser ? Quelqu'un connaît le chiffre ? Dans les épîtres, un impératif, évangéliser, sortez dans la rue, témoignez de Jésus-Christ dans les écrits, dans les épîtres. Il n'y en a pas. Aucun commandement direct qui nous invite, qui nous engage à être témoins du Christ. Est-ce que vous savez combien il y a d'instructions à l'impératif dans les épîtres sur les relations fraternelles dans l'Église ? Les uns les autres, réciproquement, mutuellement, toutes ces expressions-là. Vous avez compté ? 100. Il y en a 100. Dieu a voulu l'Église avec ses relations imparfaites pour nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est son intention pour nous. Un autre texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Pourquoi Dieu a-t-il donné les dons qui sont énumérés au verset 11 ? Pourquoi les a-t-il donnés à l'Église ? On pourrait là aussi dire beaucoup de choses. Il les a donnés pour la formation ou pour le perfectionnement des saints, pour la construction du corps de Christ, pour que nous puissions accomplir notre service, pour que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ, pour que nous ne soyons plus entraînés à tout vent de doctrine, pour que nous croissions en Christ et que chacun tire de lui, de Christ, son accroissement. Pourquoi l'Église ? Clairement pour le bien de ceux qui la constituent, pour l'épanouissement et le perfectionnement des enfants de Dieu, et cela malgré les frottements qui sont inévitables. Dieu, dans son infinie sagesse, l'a voulu ainsi. Et chers amis, Dieu ne s'est pas trompé. C'est pour notre bien. Soyons-en convaincus. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église ? Nous répondons troisièmement, car elle a une mission à accomplir dans le monde, celle d'annoncer l'Évangile au monde. Et nous nous souvenons que le texte clair, il est à la fin de l'Évangile de Matthieu, et qu'avant de quitter ses disciples, Jésus leur a laissé ce mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors nous devons répondre communautairement à ce mandat, bien sûr, mais c'est avant tout individuellement que nous devons le faire. C'est d'abord individuellement que nous sommes témoins du Christ. C'est individuellement que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Notre vie devrait interpeller celles et ceux qui nous entourent, et les amener à nous demander raison de l'espérance qui est en nous. Alors voilà pour la vie personnelle, très rapidement, qui devrait donner envie à ceux que nous côtoyons de venir voir ce qui se passe dans cette Église. Et là, dans l'Église, nous avons un rôle à jouer, un rôle qui lui aussi doit interpeller. Et c'est Jésus qui lui-même en parle dans la prière de Jean 17, cette prière dite sacerdotale. Et voilà ce qu'il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, bien sûr il y a ses disciples qui étaient présents, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi Père tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. En plus de notre témoignage, en plus de nos paroles, qu'est-ce que Dieu utilise pour toucher les cœurs de celles et ceux qui ne le connaissent pas encore ? Jésus parle ici de notre unité. Notre unité, dit-il, qui convainc le monde que le Père a envoyé le Fils. Notre unité qui convainc le monde que Dieu l'aime. Combien nous devons veiller à la façon dont nous vivons ensemble. Combien nous devons veiller à cela. C'est bien pour nous, et nous devons le faire déjà pour que nos relations soient paisibles, mais aussi parce qu'il y a des enjeux spirituels importants. Et nous devons tout mettre en œuvre par le respect, par le dialogue, par la repentance quand c'est nécessaire, par le pardon, pour préserver l'unité que Dieu nous a donnée par son Esprit. Et la solution, quand il y a un malentendu, et ça arrive, quand il y a une maladresse, quand il y a peut-être même un péché, une blessure, la solution n'est pas d'arrêter de venir à l'Église. La solution n'est pas d'arrêter de parler à la personne concernée. La solution n'est pas de partir. La solution, c'est de régler la question, le problème, la difficulté avec ce que Dieu dit dans sa parole. C'est un autre sujet en soi, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Et Dieu se servira, Dieu se sert de l'unité de ses enfants pour convaincre à salut. Chers amis, l'unité des enfants de Dieu est un bien précieux que Dieu nous a donné, un bien précieux que nous devons chérir, que nous devons cultiver. Et il nous l'a donné pour sa gloire, et il nous l'a donné pour le salut de celles et ceux qui se perdent loin de lui. Alors qu'il nous fasse la grâce de toujours tout mettre en œuvre pour chérir cette unité et pour la conserver. On termine avec une quatrième réponse à notre question. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église, quatrièmement et dernièrement, pour faire connaître la sagesse de Dieu aux puissances invisibles ? Et là, c'est le texte d'Éphésiens, toujours dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. Je lis les versets 8 à 12. Où Paul écrit « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Quand nous pensons témoignage, nous pensons généralement à l'annonce de l'Évangile, et c'est normal. À notre témoignage auprès de celles et ceux qui ne croient pas en Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, va ouvrir une autre perspective pour nous. Et il met devant nous une autre réalité. Une réalité tout autre. Dieu par l'Église. Par l'Église. Au travers de l'Église. Alors si on est chacun dans notre coin, ça ne marche pas. Mais par l'Église, Dieu fait connaître sa sagesse aux puissances dans les lieux célestes. C'est bien ce que dit notre verset 10. Et la quatrième réponse à la question « Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église ?» passe par la compréhension que l'Église est d'une certaine manière le centre d'attention du monde spirituel. Du monde invisible. Pourquoi ? Parce que l'enjeu est important. C'est Alfred Kuhn qui écrit que c'est l'honneur et la sagesse de Dieu que nous sommes appelés à défendre devant ces témoins angéliques ou démoniaque. Et à ce monde invisible, à ses dominations, ses principats et ses autorités, l'Église dit, l'Église déclare, l'Église fait connaître la sagesse de Dieu sous toutes ses facettes, c'est-à-dire dans sa grande diversité. Alors, qui sont les principats et les autorités dont parle notre texte ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de textes dans la parole qui parlent de ces dominations, de ces autorités. Ce sont des textes où il est question de puissances mauvaises, des anges déchus, de ceux qui se sont révoltés avec Satan contre Dieu. Mais il y a aussi d'autres textes où ces mêmes expressions, ces mêmes principats, ces mêmes autorités et puissances peuvent s'appliquer indifféremment aux dominations angéliques ou aux dominations démoniaques. Alors, est-ce qu'il faut trancher ? Personnellement, je ne le pense pas. Pour les démons, pour les anges déchus, les puissances mauvaises, la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église n'est qu'une preuve qu'un autre sujet, qu'une autre manifestation de la victoire de Jésus-Christ est donc un sujet de gloire pour Dieu. Et pour les anges qui servent Dieu, la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église est un grand sujet de joie et de louange. Vous avez peut-être ce texte en tête dans le livre de Job ou au chapitre 38, verset 7. Nous lisons que les anges, les fils de Dieu, poussaient des cris de joie au moment de la création du monde. À présent, ils contemplent la nouvelle création de Dieu. Et il contemple l'Église, qui, bien qu'imparfaite, est encore plus glorieuse que la première création. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église ? Pour célébrer la gloire de Dieu, pour l'épanouissement et le perfectionnement de ses enfants, pour le monde, pour le salut de ceux qui sont loin de Dieu, pour faire connaître la sagesse de Dieu dans sa grande diversité aux puissances invisibles. L'Église est-elle une option facultative ? Est-elle une option à la carte pour le disciple de Jésus ? Et j'espère que, comme moi, même si on n'a pas épuisé le sujet, vous êtes convaincus que là, qu'en réalité, l'Église est une des plus belles choses qui soient. Quelque chose d'exigeant peut être beau, hein, ou quelque chose de beau peut être exigeant. C'est une des plus belles choses qui soient, l'Église de Jésus-Christ. Et elle est absolument indispensable à la vie de la foi telle que Dieu la veut pour chacun de ses enfants et pour leur bien. Alors que Dieu nous aide chacun à toujours plus y trouver dans l'Église et y prendre notre place. Qu'il nous accorde de chérir avec force l'unité qu'il nous a donnée par son Esprit, afin que nous mettions toujours tout en œuvre pour la préserver. Ça sera pour sa gloire et ça sera pour notre bien. Amen.